assistants vocaux? Siri, OK Google, Alexa, mais France Inter.
Merci à Anne-Laure Cochet qui était aujourd'hui à la technique. Bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est 15h. Les infos, Amélie Perrier.
Le magazine Time révèle sa une distinguant la personnalité de l'année, les personnalités de l'année en fait pour 2025, puisque le titre a choisi de désigner les architectes de l'intelligence artificielle, parmi lesquels Sam Altman, le patron d'OpenAI, père de ChatGPT, Jensen Huang à la tête de Nvidia, ou encore Elon Musk, patron de xAI. L'IA est assurément devenue l'outil le plus influent dans la compétition entre grandes puissances depuis l'avènement des armes nucléaires, écrit Time. Et pour l'illustrer, une photo de 8 personnalités de l'IA assis sur une poutre métallique comme suspendue au-dessus d'une ville. Reprise de l'image iconique des ouvriers construisant un gratte-ciel à New York dans les années 30. Un hooligan néo-nazi, voilà le profil de l'homme de 36 ans mis en examen pour l'attaque de policiers à coups de mortier lundi après le match Reims-Laval. Le suspect a été placé en détention provisoire pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique avec arme. Il est connu de la justice. Il fait partie du groupe des Mesos, des hooligans à l'idéologie néo-nazie, souvent présents au stade de l'Aune. 5 policiers ont été blessés lundi soir. L'un d'entre eux a été touché aux tempes et souffre de surdité peut-être définitive. La Banque de France est-elle impliquée dans le génocide des Tutsis au Rwanda? Une plainte a été déposée contre l'institution pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. La Banque centrale française est accusée d'avoir manqué à ses obligations de contrôle et d'avoir validé plusieurs virements qui auraient facilité l'armement des génocidaires en 1994 au Rwanda. L'ONU avait alors imposé un embargo sur les ventes d'armes au pays. Or, des virements soupçonnés d'avoir permis d'acheter des équipements de communication Alcatel en France ont été repérés. Le bilan s'est encore alourdi en Indonésie. Les inondations et les glissements de terrain ont fait près d'un millier de morts. Bilan toujours provisoire. Plus de 200 personnes sont encore portées disparues. Des centaines de milliers d'habitants souffrent de pénuries et se plaignent que l'aide tarde à leur parvenir. Le soutien de la FFF au journaliste Christophe Glaise en prison en Algérie, la Fédération française de football doit afficher mercredi prochain sur la façade de son siège à Paris le portrait du reporter condamné en appel à 7 ans de prison. Il était en Algérie pour un article sur le football dans le pays. Christophe Glaise collaborait jusque-là avec SoFoot et Society. Et puis un joueur de tennis français suspendu pour 20 ans par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis. Quentin Folliot, ex numéro 488 mondial, 26 ans aujourd'hui, est accusé d'être la figure centrale d'un réseau criminel de matchs truqués, sanction particulièrement lourde. Il est le 6e joueur sanctionné dans cette vaste enquête. Le Français ne pourra pas jouer, entraîner ou même assister à un tournoi officiel pendant une période de 20 ans. À cela s'ajoute une amende de 70 000 $ et l'obligation de rembourser plus de 40 000 $ en gains illégaux supposés.
France Inter, Nicolas Stoufflet.
Rendez-vous pour des enregistrements en public du jeu des 1000 euros aujourd'hui en Loire-Atlantique à Herbignac. À 17h puis à 18h30 à la salle Laurée Dubois à Herbignac.
Le jeu des 1000 euros, tous les jours à 12h45 sur France Inter.
Les guerres et les destructions génèrent une urgence humanitaire au Moyen-Orient. Les populations sont en danger. Pour secourir et reconstruire, aidons les chrétiens d'Orient dans leur mission au service de tous. Leur action dépend de votre soutien. Faites un don à l'œuvre d'Orient sur œuvre-orient.fr.
France Inter, partenaire du nouvel album de Vanessa Paradis, Le Retour des Beaux Jours.
Juste retour des choses, comme une overdose, mais c'est le bouquet final.
Vanessa Paradis fait son grand retour à la pop. Vanessa Paradis, Le Retour des Beaux Jours, un album France Inter.
France Inter, il est 15h04, l'heure de vous retrouver, Fabrice Drouel, cette affaire sensible.
Amélie Perrier, on vous retrouve à 16h pour un prochain flash. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, le tribunal Russell. Comment juger les crimes de guerre ? Cette question a trouvé un début de réponse avec les tribunaux internationaux de Nuremberg et de Tokyo pour la Seconde Guerre mondiale. plus tard, le tribunal pénal international statuera sur le conflit en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Mais entre deux, en 1967, apparaît un tribunal international contre les crimes de guerre commis au Vietnam, initié par le mathématicien et philosophe britannique Bertrand Russell et présidé par Jean-Paul Sartre. Il se propose, sans mandat de l'ONU, d'examiner avec rigueur la question du respect des lois de la guerre dans le conflit vietnamien. Le tribunal Russell, on prononcera Russell par commodité, entend ainsi faire œuvre d'information et d'éducation, comptant sur le retentissement médiatique de ce procès, qui conclura à la culpabilité des États-Unis. Une initiative qui ne demeure pas isolée. D'autres tribunaux Russell ou tribunaux citoyens issus de la société civile ont depuis jugé nombre d'atteintes aux droits des peuples partout dans le monde. Notre invité aujourd'hui, Guillaume Morales, historien, directeur de recherche au CNRS, qui étudie spécifiquement ces tribunaux alternatifs et qui prépare un livre sur le sujet. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Odile Conseil, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Yes, please.
Nous sommes libres d'entreprendre une procédure solennelle et historique sans être liés par des obligations d'État. Pourquoi mène-t-on cette guerre au Vietnam et dans l'intérêt de qui ? Nous avons, j'en suis convaincu, le devoir d'étudier ces questions et de nous prononcer sur elles après une enquête rigoureuse, car ce faisant, nous pourrons aider l'humanité à comprendre pourquoi un petit peuple de paysans endure les assauts de la plus grande puissance industrielle de la Terre, dotée des moyens militaires les plus modernes et les plus cruels.
Celui qui s'exprime ainsi, c'est le philosophe et mathématicien britannique Lord Bertrand Russell. Nous sommes le 15 novembre 1966, à Londres, et ce personnage réputé, il est également prix Nobel de littérature, ouvre la séance constitutive du Tribunal international des crimes de guerre. Bertrand Russell a de l'entre-gens, et il a mobilisé les volontaires dans de nombreux pays pour siéger à ce tribunal. 24 intellectuels, écrivains, leaders politiques et syndicaux, représentant 18 nationalités. Tous et toutes sont des personnalités reconnues, comme l'écrivain américain James Baldwin, le philosophe autrichien Günther Anders, l'ancien président mexicain Lázaro Cárdenas. En France, Russell approche Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Celui-ci devient le président exécutif du tribunal. Le grand mathématicien Laurent Schwartz est également de la partie. Bien, mais avant d'aller plus loin, un point sur la situation au Vietnam s'impose. En 1954, après la défaite de l'armée française face au Viet Minh communiste, dirigé par Ho Chi Minh, la guerre d'Indochine prend fin. Patrick Penault le rappelle dans l'émission Monsieur X sur France Inter en 2001.
En 1954, courageusement, Pierre Mendès France signe les accords de Genève. La France va se désengager progressivement. Deux Vietnam sont nés. Au nord, les partisans de Ho Chi Minh. Au sud, ceux de Bao Dai. Mais les accords prévoient que des élections qui devront avoir lieu dans les deux ans permettront de réunifier le pays. Il n'en sera rien.
Oh non, il n'en sera rien. Car Diem, le premier ministre du Vietnam Sud, refuse d'organiser ce référendum. Il est soutenu par les Américains, qui, au nom de la lutte contre le communisme, une obsession, envoient d'abord une poignée de conseillers. Leur nombre ne cesse ensuite de croître, à mesure que la contestation contre le régime de Diem s'amplifie. De son côté, le gouvernement du Nord souhaite le respect des accords de Genève. Le Viet Minh est assuré de remporter le scrutin. Il appuie la résistance au Sud, organisé sous le nom de Front de Libération du Sud-Vietnam, ou FNL, connu également sous l'appellation péjorative de Viet Cong. Les États-Unis ont une obsession, rappelons-le, faire barrage au communisme. Hostiles aux accords de Genève, à la partition du pays et à la tenue d'un référendum, ils accroissent leur aide année après année, en hommes et en dollars, pour soutenir Diem dans sa chasse au Viet Cong. En 64, un incident maritime au large des côtes vietnamiennes délibérément grossi par Washington, permet au président américain Johnson d'obtenir l'aval du Congrès pour déployer massivement des troupes et commencer à bombarder le nord du pays. C'est le véritable début d'une guerre qui n'est jamais officiellement déclarée. En 67, l'opinion publique américaine, qui soutenait alors largement l'intervention, commence à tourner. La situation sur place s'enlise. Des soldats découvrant la réalité du Vietnam mettent en cause le bien fondé de leur action. Aux USA, des appelés s'opposent à la conscription, comme David Mitchell. Lui et d'autres refusent d'être enrôlés parce qu'ils estiment que leur pays commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au Vietnam. Lors du procès de Mitchell, celui-ci invoque les lois de Nuremberg pour justifier sa position. Sa condamnation à 5 ans de prison et 5 000 $ d'amende fait grand bruit. Eh bien, c'est cette affaire et quelques autres de même nature qui donnent à Bertrand Russell l'idée de ce tribunal. Dès l'annonce de sa création, les critiques fusent. À ceux qui lui reprochent de ne prendre en considération que les crimes perpétrés par les États-Unis et pas ceux commis par le Viet Cong, Sartre répond ceci dans une émission de la RTF en 1969.
Je me refuse, et le tribunal entier s'est refusé, à mettre sur le même plan la violence populaire, c'est-à-dire la violence qui émane d'un pays qui est en train de se faire détruire et qui ne doit en ce moment de ne pas être totalement détruit qu'à sa résistance et qui n'a que peu d'armes à sa disposition. Donc je me refuse de mettre sur le même plan cette violence et la violence d'un grand pays, la violence militaire d'un grand pays qui n'a rien à faire au Vietnam, absolument rien, et qui, cependant, pour maintenir sa présence, fait des massacres comme ceux que nous savons, permet et réalise des tortures comme celles qui ont été prouvées. Je ne vois aucun rapport entre les deux violences.
Une autre objection faite à ce tribunal est sa partialité. Il est composé de personnalités hostiles à la politique américaine et ses conclusions seraient donc écrites d'avance. Ce à quoi Sartre réplique qu'il ne s'agit pas d'émettre un jugement moral, mais d'évaluer des actes en fonction du droit, le droit international en l'occurrence. Il n'est pas non plus question d'accuser nommément telle ou telle personne. Je me vois mal condamnant le président Johnson à mort. Je me couvrirai de ridicule, affirme le philosophe. La première session aurait dû se tenir à Paris. Mais de Gaulle refuse un visa à Vladimir Dedijer, un historien yougoslave appelé à siéger au tribunal et même à en présider les sessions. Un courrier de Sartre au chef de l'État, s'inquiétant de cette situation, lui vaut cette réponse. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que toute justice, dans son principe, comme dans son exécution, n'appartient qu'à l'État. Lord Russell et ses amis ne sont investis d'aucun pouvoir, ni chargés d'aucun mandat international. Ils ne sauraient donc accomplir aucun acte de justice. Dit comme ça, en effet, ça paraît logique. Eh bien, qu'à cela ne tienne, il suffit de trouver une autre terre d'accueil. Ce sera la Suède. La première session du tribunal se tient donc à Stockholm du 2 au 10 mai 1967 et elle porte essentiellement sur les bombardements américains au Nord-Vietnam. Avant cela, des missions d'enquête ont été envoyées au Vietnam par la Fondation Russell. Elles sont composées d'experts, les avocats Gisèle Halimi, Joe Norman ou Yves Jouffa, le médecin Marcel Francis Kahn, le juriste japonais Tetsure Tsurushima, mais aussi des historiens, des journalistes, comme la correspondante de guerre Madeleine Riffaut, ou encore le représentant du Fonds national de libération du Sud-Vietnam. Il visite des lieux visés par des bombardements, étudie les impacts et les armes employées, recueille des témoignages, prépare des dossiers. Et le 2 mai 1967, Sartre ouvre la session par ces mots.
Nous sommes parfaitement conscients de n'avoir été mandatés par personne. Mais si nous avons pris l'initiative de nous réunir, c'est que nous savons aussi que personne ne pouvait nous mandater. Certes, notre tribunal n'est pas une institution, mais il ne se substitue à aucun pouvoir institué. Il est issu au contraire d'une incapacité générale, d'un vide à combler et d'un appel
généralisée, mais qui ne trouve pas le moyen de se faire entendre. Le tribunal Russell estime que sa légitimité se fonde en grande partie sur sa parfaite impuissance et sur son universalité.
Avant qu'expert, enquêteur et témoin ne défilent devant le tribunal, Vladimir Dilger rappelle qu'un courrier était envoyé au gouvernement des États-Unis, l'invitant à fournir des éléments d'information au tribunal, voire être représenté par un membre du département d'État. Mais cette lettre reste sans réponse. Le secrétaire d'État, Dean Rusk, autrement dit le ministre des Affaires étrangères, déclare qu'il n'entend pas faire joujou avec un vieil Anglais de 94 ans, comprendre Bertrand Russell. Les auditions commencent. Maître Léo Matassaro, avocat à la Cour de Paris, président de la commission juridique du tribunal, donne lecture des règles de droit applicables et détaille les crimes reprochés aux États-Unis, au premier rang desquels le crime d'agression. Voici un extrait de ses propos.
Lors des accords de Genève de 1954, un cadre juridique a été créé pour le Vietnam. Ce cadre a été accepté par toutes les parties intéressées et pas le concert des nations. En utilisant la force armée pour modifier ce cadre, les États-Unis ont remplacé une situation pacifique par un conflit armé. Ils portent donc la responsabilité du passage de l'état de paix à l'état de guerre. Et ils ont commis par conséquent, au sens du droit international, une guerre d'agression, un crime contre la paix.
Les historiens exposent ensuite longuement les agissements des Américains au Vietnam depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En effet, affirme Jean Chesneau, historien à l'École des hautes études, l'engagement américain au Vietnam date bien de l'immédiate après-guerre. Ça veut dire qu'il faut en finir avec ce mythe de la relève de la France par les États-Unis après les accords de Genève de 1954, assène-t-il. Arrive le moment où le tribunal prend connaissance d'un rapport très détaillé, issu des constatations faites sur place par les membres des diverses commissions d'enquête envoyées à différents endroits. Ils décrivent les bombardements visant des objectifs civils au nord, en République démocratique du Vietnam donc. Hôpitaux, établissements scolaires, digues, réservoirs d'eau, lieux de culte, quartiers populaires. Un chiffre. Entre août 64 et fin 66, 391 écoles, y compris des maternelles, ont subi des bombardements. On retient aussi celui d'une église, bombardée un dimanche à l'heure de la messe. 72 morts, dont 34 enfants. Le docteur Béard, membre de la commission d'enquête sur les bombardements civils au Nord-Vietnam, livre ensuite son témoignage.
Oui, il y a des bombardements civils, loin de tout objectif militaire. Le 20 janvier 1967, à midi, nous avons vu venir sur la petite ville de Tanoa où nous étions, un groupe d'avions de 5 à 8 environ. De nos abris, nous avons assisté au bombardement pendant près de 10 minutes. Puis, une deuxième vague d'avions est arrivée 5 à 10 minutes après, qui ont bombardé pendant le même temps. Nous avons pu nous rendre sur les lieux quelques heures après. Ce bombardement était dirigé contre un quartier de Tanoa, situé à environ 8 km à vol d'oiseau du pont de Hamwang, seul objectif stratégique possible dans cette région. Nous avons vu le quartier totalement en flammes et détruit. L'infirmerie de district était également détruite par les bombes incendiaires. En interrogeant les témoins, nous avons appris les raisons de la deuxième vague d'avions. Elle a mitraillé les équipes de secours et les blessés qu'on évacuait de l'hôpital en flammes.
En écho à ce compte-rendu, on donne lecture des propos du président américain Johnson accordés au New York Times. Et voilà ce qu'il dit. En ce qui concerne le bombardement des populations civiles, je me contenterai de dire que nous faisons un effort sans précédent dans l'histoire de la guerre pour faire en sorte de n'en point commettre. Les témoignages des Vietnamiens sévèrement blessés dans des bombardements invalident cette affirmation, évidemment. Leurs réponses aux questions du tribunal sont catégoriques. Aucun objectif militaire, pont, gare, dépôt d'essence, usine, mine ne se trouvait à proximité qui pouvait justifier ou du moins expliquer les bombardements subis. Un médecin allemand qui a travaillé à l'hôpital de Hue, dans le centre du pays, confirme que l'ensemble de la population peut être prise pour cible dans les zones dites de tir libre, décrétées par l'armée américaine.
D'abord, bien sûr, la proportion des victimes civiles qui dépassait de loin le nombre de victimes militaires dans cette guerre. Selon tout ce que nous avons vu là-bas, on pouvait compter certainement 4 blessés civils sur un militaire. Deuxième chose était la politique délibérée des Américains de déclarer des districts entiers free fire zone ou bien free strike zone, ce qui était l'expression technique employée par les Américains.
C'est-à-dire zone où l'on peut tirer librement.
Zone où on peut tirer librement. Souvent, la population est avertie que donc une telle zone est déclarée free fire zone. Parfois, malheureusement, cet avertissement se fait d'une façon trop vague, ainsi que les paysans ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit. Et seulement une partie de ces paysans quittent une telle zone immédiatement. La plupart, normalement, s'en va seulement après des bombardements assez intensifs. Et là, donc, c'est inévitable qu'il y a un grand nombre de victimes.
À l'issue de la session à Stockholm, le tribunal rend un premier jugement. Oui, les États-Unis ont commis une agression contre le Vietnam au terme de la loi internationale. Et oui, ils ont effectué des bombardements délibérés, systématiques et à grande échelle sur des objectifs civils au Vietnam.
Give me second-class houses and second-class schools. Do you think that all colored folks are just second-class fools, Mr. Backlash? I'm gonna leave you with a backlash blue. When I try to find a job to earn a little cash,
écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le tribunal Russell, où les crimes de guerre des États-Unis en procès.
The United States has no right to make any attack upon any place in North Vietnam.
Messieurs les présidents, mesdames, messieurs.
You are now going to hear 4 witnesses who come from Vietnam.
The final meeting of our first session is closed.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
La deuxième session du tribunal se tient au Danemark, dans la ville de Roskilde, du 20 novembre au 1er décembre 1967. Les juges sont un peu moins nombreux que lors de la première session, mais tout aussi divers dans leurs origines géographiques, leur attachement au droit international et aux droits humains. Cette session se concentre sur les crimes les plus graves de la guerre, ceux qui ont été commis au Sud-Vietnam par les troupes américaines au sol, opérant avec les soldats sud-vietnamiens. Il s'agit cette fois d'examiner trois questions que Jean-Paul Sartre, président exécutif, présente ainsi.
Y a-t-il eu, de la part des armées américaines, utilisation ou expérimentation d'armes nouvelles, d'armes interdites par les lois de la guerre? Les prisonniers vietnamiens sont-ils soumis à des traitements inhumains, interdits par les lois de la guerre, et notamment la torture et l'humiliation? Y a-t-il eu des représailles injustifiées contre la population civile, notamment par exécution d'otages? Y a-t-il eu création de camps de travail forcés ou autres actes tendant à l'extermination de la population et pouvant être caractérisés, juridiquement, comme actes de génocide?
Sur la première question, l'examen des faits commence avec un rapport sur les bombes au napalm et au phosphore prohibées par les lois de la guerre. Elles causent d'atroces brûlures, souvent mortelles. Un paysan sud-vietnamien qui en a réchappé, blessé par une bombe au phosphore alors qu'il labourait son champ, dit ses souffrances. Trois médecins détaillent les séquelles de ses blessures qui le laissent handicapé à vie. Il ne peut plus se servir de ses mains. Outre les bombes au napalm ou au phosphore, les États-Unis utilisent aussi des bombes à fragmentation, dites à billes, qui causent des blessures épouvantables et constituent autant de circonstances aggravantes au regard des lois internationales. Autre moment fort, les dépositions de soldats américains démobilisés, interrogés notamment par l'avocate Gisèle Halimi. Peter Martinson, d'abord, 23 ans, affecté à l'interrogatoire des prisonniers de guerre. Il reconnaît qu'il était favorable à la guerre à son arrivée au Vietnam. Mais il s'est peu à peu rendu compte que la population ne voulait pas des libérateurs américains. Je pouvais faire ce que je voulais des prisonniers, n'ignorant pas que si l'un d'eux venait à mourir, je n'aurais pas rédigé de rapport et je ne risquerais aucune sanction. Il est interviewé ici par une journaliste après son témoignage devant le tribunal.
Mon métier, c'est-à-dire ma spécialité, était d'interroger les prisonniers de guerre. Pour un interrogatoire que je n'ai pas décrit devant le tribunal, une femme responsable Viet Cong nous a été désignée. Nous l'avons prise, attachée à un poteau de tente, et nous l'avons torturée en enroulant des fils électriques autour de ses oreilles. Elle a été torturée ainsi durant plusieurs heures. Elle n'a pas parlé. Mais la chose horrible est que l'on commence par une gifle, ensuite deux, trois, quatre, et puis la torture électrique, qui est bien, bien pire que n'importe quel passage à tabac. Et l'évolution qui s'opère chez l'interrogateur est étrange. Vous giflez une première fois pour des raisons purement pratiques, la deuxième fois par colère, et ensuite cela devient une perversion. L'interrogateur possède durant l'interrogatoire un pouvoir absolu. Aucun homme ne devrait avoir un tel pouvoir sur un autre homme, n'importe lequel.
Un autre soldat relate qu'il a vu des militaires achever des Vietnamiens blessés. Il explique aussi que lorsque les Américains essuient des tirs de Vietnamiens, ils répliquent par ce qu'ils appellent une minute de folie. Autrement dit, les tanks et les mitrailleuses se déchaînent à bon coup contre tout ce qui se trouve dans le village, vivant ou non. Les témoignages successifs de deux femmes emprisonnées pendant plusieurs années, longuement torturées, créent une forte impression. Elles décrivent par le menu les supplices variés. Absorption forcée de litres d'eau, voire d'eau savonneuse ou de jus de poisson, électricité, coups, pendaison par les bras, corps livré aux fourmis. Ces tortures sont corroborées par le médecin allemand Erich Wolf, qui a travaillé plusieurs années à l'hôpital de Hue.
Les prisonniers envoyés à l'hôpital de Hue quand ils étaient gravement malades, surtout au cours de deux dernières grandes épidémies de peste et de choléra que nous avons eues à Hue. Et pendant ce temps-là, j'ai eu l'occasion de m'intervenir en effet avec à peu près 50 des prisonniers, tous des suspects Vietcong, des paysans. Et je peux affirmer qu'il n'y avait aucune exception. Ils ont été tous torturés par des coups de pied, pas seulement, mais aussi par des tortures électriques. Et on les a fait boire l'eau savonneuse, etc., etc.
Vient ensuite l'épineuse question de savoir si un génocide est perpétré au Vietnam par les Américains. C'est Jean-Paul Sartre qui empoigne ce sujet et qui présente aux membres du tribunal un très long argumentaire. Il développe notamment la notion de génocide conditionnel, formulée par les États-Unis aux combattants du FNL au Vietnam du Sud, qui veut dire « rendez-vous ou nous vous détruirons ». La suite, c'est Jean-Paul Sartre qui l'explique.
Voyons quels sont les termes de l'alternative. Au sud, voici le choix. On brûle les villages, on soumet la population à des bombardements massifs et délibérément meurtriers, on tire sur le bétail, on détruit la végétation par des défoliants, on mitraille au hasard et partout on tue, on viole, on pille. Cela, c'est le génocide au sens le plus rigoureux. L'autre terme, quel est-il ? Que doit faire le peuple vietnamien pour échapper à cette mort atroce ? Se rendre aux forces armées américaines et se laisser enfermer dans des hameaux stratégiques ou dans des hameaux de la vie nouvelle qui ne diffèrent des premiers que par le nom, bref, dans des camps de concentration. En d'autres termes, il n'est pas vrai que le choix porte sur la mort ou la soumission. Car la soumission elle-même, dans ces circonstances, est un génocide. Disons qu'il faut choisir entre la mort violente, immédiate, et la mort lente, au terme d'une dégradation physique et mentale.
Au terme de sa démonstration, Sartre affirme que les États-Unis poursuivent et intensifient une guerre dont chacun comprend chaque jour un peu plus que le seul moyen de vaincre est de libérer le Vietnam de tous les Vietnamiens. Je reprends les mots du philosophe. À l'issue de cette deuxième session, le tribunal répond à l'unanimité et positivement aux trois questions examinées. Utilisation d'armes interdites par les lois de la guerre, traitements appliqués aux prisonniers interdits par les lois de la guerre, traitements inhumains infligés aux populations civiles et crimes de génocide à l'égard du peuple vietnamien. Autrement dit, coupable, coupable, coupable. Alors bien sûr, ce tribunal juge, mais comme le disait le général de Gaulle, il n'a pas la légitimité pour condamner et faire exécuter ses décisions, pas plus qu'il ne peut empêcher la guerre de se poursuivre. Quelques mois plus tard, le massacre de Mae Lai, sauvagement perpétré par des soldats américains, fait entre 400 et 500 victimes, hommes, femmes, enfants, nourrissons. Il demeure à ce jour l'épisode le plus choquant de la guerre du Vietnam. Les initiateurs du tribunal Russell affichent clairement le souhait que leur initiative débouche sur un véritable tribunal permanent contre les crimes de guerre. Il faut cependant attendre l'année 98, autrement dit plus de 20 ans, pour que soit créée la Cour pénale internationale chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. L'avocat Henri Leclerc disait alors son espoir dans cette justice internationale sur France Inter.
Il faut que même ceux qui ont été chefs d'État sachent que à travers le monde, ils seront pourchassés. Il faut que ceux qui ont envie de commettre à nouveau des crimes sachent les risques qu'ils prennent devant la justice du monde. Il y a là une exemplarité d'une justice internationale qui me paraît un pas en avant de l'humanité.
Mais l'action de la CPI, Cour pénale internationale, reste limitée, voire critiquée. Et d'autres tribunaux citoyens, d'autres tribunaux Russell, émergent un peu partout, qui montre une volonté de la société civile de mettre en lumière des crimes pour aiguillonner et faire avancer cette justice internationale. L'universitaire suisse Camille de Montavon, qui s'est penché sur ces tribunaux pour sa thèse de droit, en a dénombré plus de 300 qui œuvrent sous l'appellation de tribunaux d'opinion ou de conscience ou citoyens. Certains agissent sous la houlette du tribunal permanent des peuples, créé en 79 à Bologne, à l'initiative du philosophe et parlementaire italien Lelio Basso, qui faisait partie du tribunal Russell-Sartre. Ces tribunaux s'attaquent à nombre de sujets, du génocide des Arméniens à la politique du FMI et de la Banque mondiale, en passant par le Tibet, le Sri Lanka, ou encore la politique de l'Union européenne en matière de migrants. Ils mènent des enquêtes et entendent des témoignages concernant des atteintes aux droits humains, aux droits de la guerre, aux droits des peuples, aux droits du travail ou plus récemment aux atteintes à l'environnement. Lors du procès Monsanto, qui se tient à La Haye en 2016, le tribunal estime ainsi que la compagnie américaine se rend ou s'est rendue coupable d'atteinte à de nombreux droits humains, notamment en commercialisant le Roundup et l'agent Orange, cet herbicide répandu en abondance par les avions américains lors de la guerre du Vietnam. Mais surtout, ce tribunal citoyen invite les Nations Unies à inclure le crime d'écocide dans le droit pénal international. Sa présidente, la Belge Françoise Tulkens, ex-juge à la Cour européenne des droits de l'homme, le disait au micro de France Culture, soulignant l'importance de ce type d'instance.
Ici, c'est permettre précisément d'entendre ces préoccupations de la société civile et aussi ouvrir un peu des pistes pour faire évoluer le droit international dans ces domaines. Parce qu'il y avait un juriste américain qui a une phrase que je trouve magnifique, il dit « Le droit doit être stable ». Ça, c'est vrai, parce que la sécurité juridique, c'est important. Le droit, c'est pas une blague, hein. Le droit, c'est sérieux, c'est ce qui règle les conflits, mais en même temps, il ne peut pas être immobile. Et ça, c'est pour moi le point. C'est qu'en même temps, on sent bien, dans ce domaine de l'environnement, il y a des ouvertures qui doivent se faire pour le futur. Et donc, éventuellement, on ouvre des pistes pour faire bouger ou faire évoluer le droit et le droit international des droits de l'homme. S'il n'y a pas des organisations telles que celle-ci qui permettent de le faire, qui donc va le faire?
Le dernier tribunal russellois en date, c'est-à-dire financé par la Fondation Russell, concerne la Palestine. Il est mis sur pied en 2009 par des personnalités telles que Nirit Peled Elanan, philosophe et professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, ou Leïla Chaïd, déléguée générale de l'autorité palestinienne auprès de l'Union européenne. Parmi ses parrains et marraines figurent Angela Davis, Noam Chomsky, Desmond Tutu, les écrivains John Berger et Brighton Bach, la juriste Monique Chemillé-Gendreau, Stéphane Hessel le préside. Gisèle Halimi, qui avait été membre du premier tribunal Russell, en fait également partie. Il s'agit, face aux violations répétées du droit international par Israël, de questionner l'impunité dont bénéficie ce pays et donc ceux qui permettent cette impunité. L'Union européenne, certaines entreprises multinationales, les États-Unis et enfin les Nations unies. Outre que le tribunal, dans ses conclusions, reconnaît les graves manquements au droit international commis par tous ces organismes, du fait de leur soutien quasi inconditionnel à Israël, il propose également la notion de sociocide, dont cet État se rend, selon lui, coupable. Explication de Pierre Galland, coordinateur général de ce tribunal, dans l'ouvrage qui en résume les travaux.
Le tribunal entend, ici, jouer un rôle précurseur en droit positif, à l'instar de ce qu'avait fait le juriste américain Lemkin, lorsqu'en 1944, il avait qualifié de génocide le massacre des Juifs par les nazis. Le tribunal Russell pour la Palestine ne joue ici qu'un rôle d'initiateur dans l'établissement de ce qui pourrait devenir un jour un nouveau concept juridique. Lorsque des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre dépassent leur caractère singulier.